RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Restez avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Zora Bitton est là, elle est cadre dans la fonction publique. Emmanuel Devilliers est des nôtres aussi, le chef d'entreprise. Et puis nous sommes avec Bruno Poncet, le cheminot de Vierzon. La dernière heure des GG, tout à l'heure à midi moins 20, on s'intéressera à ce rapport qui préconise d'afficher le vrai prix de la santé en France. De façon à ce que quand on sort notre carte vitale, on sache précisément normalement ce qu'on aurait dû payer. Par exemple, pour une jambe cassée, c'est entre 60 000 et 70 000 euros. Les soins, l'hôpital, l'utilisation des machines, etc. Alors, est-ce qu'il faut afficher le vrai prix de la santé en France ? C'est à midi moins 20 qu'on en parlera. À 11h20, là, dans un quart d'heure, 20 minutes, on évoquera cette collégienne qui a été rouée de coups par deux adolescentes. Ça s'est passé près de Lyon, à Saint-Genis-Laval, dans la banlieue lyonnaise. Elle s'est fait rouer de coups. Elle était à terre, elle s'est fait piétiner les coups de pied dans la tête par deux autres filles qui elles-mêmes sont connues pour être déjà violentes. Donc on en parlera à 11h20 avec vous. Mais d'abord on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Alors, c'est inédit dans les GG, ça faisait longtemps, on accueille un optimiste. Parce que les GG, on peut pas dire que ce soit l'émission la plus optimiste du moment. C'est
l'émission devenir, d'ailleurs,
qui dit c'est vérité. C'est l'émission on râle, mais là on accueille un optimiste et il est économiste. C'est vous dire l'intérêt d'écouter Nicolas Bouzou qui vient avec ce livre chez XO Éditions, L'éternel sursaut, sous-titré Une histoire confiante de la France. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Avant de connaître le sursaut, là c'est plutôt le grand déclassement que l'on est en train de vivre. Pourquoi, si on ne fait rien, un Polonais dans 5 ans sera plus riche qu'un Français ?
Parce qu'on n'a pas assez d'activité économique en France, parce que les salaires, ça tombe pas du ciel. Les salaires, c'est une résultante de l'activité économique, de la croissance. Et quand on a 1% de croissance au mieux tous les ans, on peut pas avoir des salaires qui augmentent de 3-4% par an, c'est impossible. Et en Pologne, vous prenez cet exemple, il y a de l'activité économique, il y a de la croissance. Je suis désolé, hein, peut-être j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais parfois, dans le débat public français, on est obligé de rappeler que les salaires sont distribués par des entreprises et que les entreprises ont besoin d'avoir de l'activité pour distribuer des salaires.
Il y en a qui ont tendance à l'oublier.
Pardon, hein.
Ouais, c'est vrai. C'est
mais
bien
c'est,
de le rappeler.
C'est factuel, la France vit un déclassement.
Oui, absolument. Alors c'est un déclassement qui est relatif, ça veut dire que beaucoup de pays vont plus vite que nous. Et en fait, ça
donc
génère...
en fait, on stagne. Et
oui,
on stagne.
Ça dépend des gens en fait. Donc grosso modo, on va dire qu'en termes de salaire, on stagne. Mais voyez, si vous prenez l'ensemble des pays développés, des pays de l'OCDE, il y a 15-20 ans, on était vraiment en haut. Maintenant, on est au milieu. Donc il y a quand même
donc
cette idée, vous voyez, de déclassement relatif. Et moi, si vous voulez, ce qui me rend ce que je trouve extrêmement problématique, c'est que vous avez plein de gens qui travaillent beaucoup en France. C'est pas vrai de dire qu'on travaille pas. Les gens travaillent pas 35 heures. Hein. 35 heures, c'est la durée à partir de laquelle, en fait, les règles changent. Mais vous avez des tas de gens dans notre pays qui travaillent 40 heures. Et puis à la fin du mois, ils ont pas les moyens de se payer une pizza en famille. Et pour un libéral comme moi, qui veut faire la promotion du travail, c'est pas possible.
Et pourquoi le travail ne paye plus alors ?
Bah parce que collectivement on n'est pas assez performant, parce qu'on a trop de règles, parce qu'on a trop d'impôts et parce que justement, et c'est un peu l'objet de ce que j'essaie de défendre, en réalité. En France, vous avez énormément d'entrepreneurs, vous avez énormément de salariés qui travaillent bien. En fait, on a un moteur économique qui est extrêmement performant, mais il est très bridé. Il est tout petit. Donc, on a vraiment... Et je vous le dis pas par bien-pensance, hein, franchement. Hein, mais c'est vrai de dire qu'on a des potentialités dans notre pays qui sont absolument exceptionnelles, mais voilà, qu'il faut... libérer
oui,
pour que le pays donne sa
Nicolas,
pleine mesure.
Nicolas, vous êtes un optimiste indécrottable. Mais quand même, les faits nous montrent que si on veut changer les choses, on n'y arrive jamais. Par exemple, le budget. François Bayrou nous avait dit, essayer de faire prendre conscience aux gens qu'on dépensait trop, qu'il y avait des déficits, qu'il fallait régler le problème de la dette. Le cornu arrive, il fait voter un budget avec plus d'impôts, plus de dépenses, et on nous dit bah il faudra attendre un an pour voir si ça change. Donc en fait, on n'y arrive jamais. Donc moi je veux bien votre sursaut, vous appelez vos vœux, votre sursaut, mais on le voit pas venir le sursaut.
Non, je suis complètement, je suis entièrement d'accord avec vous sur le spectacle.
Vous croyez que la présidentielle, les candidats vont arriver avec un langage de vérité, ils vont nous promettre
voter,
encore.
C'est pas, moi je suis pas tout seul à voter, donc c'est les Français qui choisissent leur gouvernant.
Parmi les candidats,
mais Olivier. Justement, ce que j'essaie de montrer dans cet ouvrage, c'est que la France, c'est ça. La France, c'est le pays qui décline plus que les autres, qui met plus de temps que les autres à redémarrer. Mais c'est le pays, croyez-moi, je fais une analyse historique depuis la France d'avant la France, depuis la Gaule. C'est le pays qui redémarre le plus vite.
Donnez-nous des exemples concrets.
Allez. 1870, Sedan, l'Empire s'effondre, on perd nos territoires les plus industrieux, les plus efficaces économiquement. Vous avez la guerre civile, la commune, vous avez tous les scandales parlementaires, Panama, etc. Vous avez le boulangisme qui arrive, vous avez un président de la République qui s'appelle Sadi Carnot qui se fait assassiner, vous avez l'affaire Dreyfus. Et à partir de la fin du 19e siècle, la France invente le cinéma. Elle va devenir leader de l'industrie automobile et elle va quasiment inventer l'aviation. Vous avez les expositions universelles, vous avez l'art nouveau et le monde entier veut venir en France. Et je pourrais multiplier les exemples. 58,
on rebondit
avec,
en fait.
58 avec le retour du général. 58, la guerre en Algérie, le FMI. Général de Gaulle. Attends.
Oui.
30 secondes. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Général de Gaulle, il appelle Pinay, il lui dit on va remettre un peu d'ordre dans les finances publiques. Il fait appel à l'économiste le plus libéral du pays, excellente idée, Jacques Rueff, et pour libéraliser l'économie et la France, alors que les parlementaires ont filé la République à Pétain le 10 juillet 1940, la France va connaître les 30 glorieuses les plus brillantes de tous les
pays.
Comment voulez-vous que je ne sois pas confiant quand je regarde
cette histoire ? D'accord, mais le point commun, c'est qu'il faut une bonne guerre pour se relancer, parce que 58, il y a la guerre d'Algérie qui fait tomber la 4ème République, et vous parliez de la guerre de 1870, pareil. Donc en fait, il faut arriver au pire pour essayer de se relancer. C'est un peu
inquiétant. C'est une immense question que vous posez. Justement, notre rôle, à vous et moi, d'ambianceur, c'est d'essayer de faire en sorte que la prise de conscience, elle se fasse avant le drame, parce que vous m'invitez pas et j'écris pas des livres pour dire bah écoutez, on va faire n'importe quoi, tout va aller à volo, on va avoir le FMI et les choses vont aller mieux. C'est quand même pas très satisfaisant. Alors, mais regardez, je voulais juste là.
Il faut qu'on soit au bout du rouleau pour réagir.
Regardez ce qui s'est passé l'année dernière. Notre-Dame et les Jeux Olympiques ont fait des lois d'exception pour dire aux gens, vous allez bosser, toutes les règles qui vous ennuient tout au long de l'année, ça s'applique pas. On trouve de l'argent privé. C'est pas de l'argent public, de l'argent privé, etc. Et on donne aux gens un projet. Et la France, elle impressionne le monde.
Non, mais
comment ça, non,
alors, mais si, malheureusement, on peut pas résumer la situation de la France depuis 10 ans à la reconstruction de Notre-Dame et aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, Notre-Dame qui n'aurait jamais dû brûler, qui a sans doute brûlé pour des règles liées au code du travail et qui a été incendie lui-même représentatif du mal français. Alors, moi, je voudrais vous féliciter très modestement pour votre ouvrage parce que c'est formidable qu'il y ait des gens comme vous qui se mouillent avec cet optimisme. C'est forcément positif. Maintenant, dans le débat qui nous anime, je ne crois pas malheureusement à votre thèse. J'espère me tromper. Je me trompe peut-être.
Ça m'étonne pas.
Parce que connaissant ce qu'il y a sous le capot de l'économie française, je pense en quelques mots simplement qu'on est coincé, on est par notre niveau d'endettement abyssal de l'État, puisque 100 milliards, c'est le niveau de l'impôt sur le revenu, c'est quelque chose d'absolument considérable, c'est deux fois le budget de la défense, enfin, c'est l'asphyxie qui est en cours et irrémédiable, et que de surcroît, on est coincé de partout, on est encastré de partout, qui plus est que nos politiciens, à cause de quoi ? Des choses énormes, l'Europe, on a plus les manettes. Comme dirait l'autre, vous disiez Pinel, le français, on n'a plus les manettes, on est bloqué. L'immigration incontrôlée avec les masses mondiales, c'est quelque chose d'endémique absolument immaîtrisable et qui nous frappe de plein fouet, la France. Les mentalités françaises des droits acquis, c'est dans la tête que ça se passe. Allez, les dictateurs continuent parce que ils n'arrivent pas à faire transmettre dans la rue, dans les guerres civiles, la révolution dans les têtes. Mais nous, c'est dans les têtes, les gens sont dans les droits acquis, ils sont complètement lobotomisé, voilà. Et puis la démagogie électorale, Olivier Truchot y a fait référence. On pourrait encore citer le pouvoir excessif des juges. Si jamais il y a quelque chose qui marche, voilà. Mon expression, c'est on est encastré, voilà. Et là, on bouge plus là.
Je voudrais avoir la réponse de Nicolas. Ouais, la réponse de Nicolas et après Zora. Mais
alors,
de Nicolas.
Déjà sur deux points. Est-ce que l'Europe nous paralyse?
Mais non, c'est nous qui nous paralysons nous-mêmes.
Voilà, merci.
Regardez, demandez aux agriculteurs, vous vous intéressez beaucoup, je vous écoute, vous vous intéressez beaucoup aux questions agricoles. Mais le problème de l'agriculture, c'est pas l'Europe. D'ailleurs, l'Allemagne et les Pays-Bas réussissent bien mieux que nous maintenant dans le domaine agricole. C'est le fait que notre Parlement surtranspose de façon absolument délirante toutes les directives européennes. La question de la dette, je suis d'accord avec vous, bien évidemment. Mais enfin, on a 1700 milliards d'euros de dépenses publiques. Faut la réduire de 30 milliards pendant 3 ou 4 ans. Vous êtes dirigeant d'entreprise. On se met ensemble dans une pièce. Si on est un peu raisonnable et un peu adulte, on n'arrive pas à faire ça.
Oui, mais les politiques n'arrivent pas. Regardez, voilà.
Mais les politiques n'arrivent pas parce qu'ils cherchent pas.
Voilà,
parce qu'ils veulent pas.
Donc
ça veut dire ces politiques qui vont pas changer. Oui. Ceux qui sont là actuellement, ils seront là dans un an pendant la présidentielle.
Ah, rien, moi,
pas sûr.
Emmanuel, parmi les problèmes, il a parlé de l'immigration aussi. Est-ce que c'est un problème?
Oui, l'immigration, la question de l'immigration, c'est qu'on on la maîtrise pas. Mais c'est pas véritablement une question européenne. On peut parfaitement mettre en place une politique d'immigration choisie, comme l'ont fait par exemple les Canadiens, où on décide de dire, bah voilà, dans tel métier, on a vraiment besoin de gens qui sont qualifiés, et donc on met en place des quotas. Mais ça demande une vraie organisation et un État qui soit performant, parce que quelque chose qui à mon avis est un peu au cœur du problème et que vous n'avez pas pointé du doigt, c'est l'inefficacité endémique de l'État. Je vais dire un truc qui va vous faire plaisir, je pense. En faisant ce livre, je suis un peu devenu, je ne m'y attendais pas, bonapartiste, parce que le code civil, c'est-à-dire une immense simplification juridique 1804, et l'idée d'un État frugal, concentré sur ses missions, qui se protège vers l'avenir, je pense que si nous revenions à cet esprit bonapartiste, pas celui des guerres, bien évidemment. Oui, mais les Français, ils adorent leur histoire. Oui, ils sont très sensibles à ce genre de références. Donc les gens, ils comprennent, ils sont très cultivés, les Français en histoire, ils comprennent parfaitement ce que je veux dire quand je parle d'État, d'esprit bonapartiste, etc.
Bon courage, vous demandez à l'État obèse de réduire et de se concentrer sur ses fonctions régaliennes. Je dis bon courage parce qu'il y a des intérêts quand même très nombreux pour que les choses ne bougent pas.
Vous m'invitez pas pour vous raconter des trucs faciles. Mais vous avez
sans doute le bon remède. Maintenant, on n'a pas trouvé le médecin.
Mais non, mais ce qui est dingue, en tout cas, merci d'être là. Moi, j'ai pas eu le temps de lire votre livre, mais je suis aussi intéressée par cette idée. D'abord, je suis une optimiste aussi, donc ça aide.
Ça se voit.
Je suis une optimiste, moi. Je crois aux Français et crois à leur capacité de faire des choses absolument incroyables. Et je crois surtout à leur envie en ce moment, plus que jamais, de vouloir se mobiliser pour peut-être eux être aussi une solution. Mais il y a un phénomène très intéressant que vous décrivez, qui est celui de la paralysie organisée pour empêcher la créativité et empêcher la production de richesses. C'est-à-dire que je donne un exemple, tout bête. Un jeune se lève un matin et se dit, dans mon coin, j'aimerais bien aller livrer des croissants aux gens et du pain, parce qu'il y a beaucoup de gens âgés. Avant qu'il se lève le matin, qu'il aille à la boulangerie, qu'il achète ses croissants, qu'il prenne son vélo et qu'il se dit « je vais bosser », il a d'abord une tonne de paperasse, peut-être pas l'autorisation, peut-être machin et peut-être bidule, et il y a 1 million de freins qui vont faire que à la fin de la journée, il va se dire je peux pas. En fait, il faut libérer la créativité, le travail et l'esprit d'entreprendre.
C'est vrai ou pas, Nicolas?
Mais j'en suis absolument convaincu. C'est pour ça que je pense que le premier sujet, c'est vraiment celui de la simplification.
Mais
vous avez tellement de gens, mais d'ailleurs même au sein de l'État ou des collectivités locales, des maires qui vous disent, mais je voudrais faire skateboard, etc., mais je peux pas parce que j'ai trop de lois.
Donc il faut commencer.
Et ça, c'est très concret. Le problème, c'est qu'en plus, là, les partis politiques ne prépare pas du tout les programmes de la présidentielle. C'est des agences d'événementiel. Mais ils font rien, ils n'ont pas l'idée d'un. Au mieux, du mieux, moi chez mes amis, vous avez quelqu'un qui va vous dire il faut mettre une couche de retraite par capitalisation. Alors là, on est dans le bout du monde de la précision programmatique. Donc il faut savoir comment on simplifie. Je peux dire un truc sur les cheminots?
Oui.
Parce que vous me demandiez des exemples historiques.
À côté de Bruno Ponce.
Ouais, attendez. 19e siècle, ça c'est vraiment la France. La France était le pays le plus en retard en matière de développement de chemin de fer. Les premières années, on a terminé, on était le pays le plus en avance. Parce que la France est toujours un pays, c'est le pays qui part le plus tard et c'est le pays qui arrive en tête. C'est ça ce qui va se passer.
Rien ne sert de courir un point. Vas-y, Bruno.
Non, déjà moi, je vous écoutais, je vous ai déjà rencontré, on a fait déjà des débats à l'époque des réformes ferroviaires.
Ouais.
Vous étiez moins enthousiaste vis-à-vis de ce qu'on faisait, mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, vous dites, la relance. Mais, effectivement, chaque fois que vous parlez de relance dans l'histoire de France, souvent il y a eu un conflit ou il y a eu une révolution. Or, en fait, aujourd'hui, on a un conflit et la relance de l'industrie française est en train de se faire parce que avec l'armement. Moi, je viens d'une région, la région du centre, Bourges, où aujourd'hui, ça n'a jamais marché autant, il y a de l'emploi, parce qu'on vend des armes, et parce qu'on vend les armes qui bombardent et la Russie et l'Ukraine.
Et on va en continuer à le faire.
Et parce que ça nous rapporte, et je pense qu'on est content quand la guerre s'arrête pas. Et donc moi je vous entends, mais sauf que derrière vous parlez pas de réindustrialisation. Vous parlez pas, vous nous dites oui, il faut créer de la richesse, mais moi la richesse c'est pas devenir un pays de service. Mmh. On est devenu un pays de service. Moi quand j'étais gamin, j'ai travaillé l'usine à partir de 17 ans et demi, bah rentrer dans des usines, il y en avait partout. Aujourd'hui, il y a plus d'usines. Il n'y a plus donc d'ouvriers, il n'y a plus de vote ouvrier, et donc effectivement aujourd'hui on se retrouve dans une espèce de nasse de gens qui vous parlent d'économie toute la journée, qui n'y connaissent rien et qui n'ont jamais rien géré. Un ouvrier, quand il était payé à la fin de semaine, il savait très bien qu'il pouvait aller au bistrot le vendredi soir ou le samedi soir, il ramenait l'argent à maman parce qu'il fallait qu'il fasse manger la semaine d'après. C'était tout ça, c'était quelque chose de concret. Aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie, et moi je vous entends pas parler d'industrialisation.
Ah bah, alors,
je vous parle pas de parler des patrons, de
ces
patrons
voyous.
Vous en parlez 30 secondes.
Non, mais regardez, je vous parle pas. Moi, j'entends même pas qu'on parle des patrons voyous. Ouais. Comme par exemple Michelin qui touche de l'argent pour acheter des machines, mais qui achète des machines dans des dans ces usines à l'étranger. Alors, il y a un vrai sujet.
Bon, déjà, la France et les étrangers nous voient comme ça, c'est un pays d'entrepreneurs et d'ingénieurs. Vous n'avez pas un pays au monde qui sort autant d'ingénieurs. Donc le fait qu'on se soit désindustrialisé, vous avez tout à fait raison, est une anomalie. C'est une trahison de l'esprit français. Mais regardons les choses concrètement. Aujourd'hui, vous voulez faire une usine en France ? Mais c'est incroyablement compliqué. Il faut trouver le foncier, il faut qu'il soit constructible, il faut avoir les autorisations, vous avez des recours juridiques. Le juge administratif, pardonnez-moi, on est dans les grandes gueules de vous le dire comme je le pense, mais parfois, il n'est pas obsédé non plus par l'intérêt économique, mais par d'autres considérations. Et donc, et puis j'ajoute les charges, etc. Le fait aussi qu'on a des difficultés de recrutement dans l'industrie, tous les industriels vous le disent. Et en réalité, la France, qui est structurellement un grand pays industriel, tout le Second Empire, la France, c'était justement le pays de l'industrie. Et je pourrais même remonter à, je le fais dans le livre, la France d'avant la France, les Gaulois, complètement caricaturés par Astérix qui a fait croire qu'on était un petit pays comme ça, obsédé par la bière, etc. La Gaule, c'était pas ça. La Gaule, c'était le pays qui était le plus exportateur de chars, d'armes, d'agroalimentaires. Donc, c'est vraiment dans notre tradition. Donc, je suis sûr que sur certains sujets, on pourrait s'entendre. Je suis mille fois d'accord avec vous sur...
Mais est-ce qu'on peut réindustrialiser le pays?
Bien sûr.
Oui, mais il y a un manque de main-d'œuvre qui est cher.
Bien sûr.
Pour réindustrialiser.
Oui, il y a une main-d'œuvre qui est chère, mais aujourd'hui, les outils technologiques, notamment les robots, permettent de faire en sorte qu'en réalité, la part de la main-d'œuvre dans le coût d'une usine est beaucoup plus faible qu'auparavant. Non, mais il faut des salariés. Mais c'est les deux. Oui, mais c'est les deux.
C'est comme l'IA. L'IA va envoyer des gens au chômage, mais on en fait quoi de ces gens?
Non, parce que je suis persuadé que pour utiliser l'IA, et puis,
exactement,
de toute façon, il y a plein d'autres jobs qui vont se créer. Donc, si vous voulez, la technologie, elle va considérablement nous aider. Et de la même façon que les technologies de mécanisation, le charbon au 19e siècle ont permis le développement de l'usine.
On manque de boulangers, on manque de charcutiers, on manque de bouchers, on manque pas de sociologues. Il y a quand même un sujet aussi d'orientation, en fait.
Non, attendez, on va faire une tribune ensemble, parce que si vous êtes, si vous trouvez qu'il y a 100 sociologues et qu'on les entend trop, on va être amis, hein. Je suis entièrement d'accord.
Un mot, justement.
Moi, je trouve qu'il y a trop de sociologues et pas assez de gens comme moi.
Un mot, pour terminer, parce que c'est dans l'actualité, 20% des jeunes sont au chômage. Ça fait à peu près 30 ans, c'est ce que disait le MEDEF, qu'on a 20% de jeunes au chômage. Mmh. On n'y arrive pas. Le MEDEF proposait, de faire un CDI spécial jeune, moins bien payé, moins protecteur. Mmh. Ça a été retoqué par le gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait alors pour les jeunes?
Ça, je suis contre, parce que je veux pas qu'on stigmatise une partie de la population.
D'accord, mais quelles sont les contre-propositions?
Alors, aujourd'hui, en France, on a un problème chez les jeunes majeur de formation et de qualité de la formation. On voit que la dégradation, par exemple, de notre niveau en mathématiques commence déjà à se payer économiquement avec moins d'ingénieurs, des ingénieurs qui sont de moins bon niveau, etc. Donc on a un sujet absolument majeur de formation. Et après, l'autre sujet, en fait, tout bête, mais je suis obligé de revenir à des basiques, c'est l'activité économique. C'est le fait qu'on bride trop l'activité économique et donc que dans des endroits comme Vierzon, où on pourrait réindustrialiser, où on pourrait développer davantage de commerce aussi, parce qu'il faut écouter les restaurants, les exploitations agricoles. En fait, la demande dans le domaine, elle est énorme aujourd'hui au niveau mondial, sauf qu'on se freine nous-mêmes, notamment par les surtranspositions dont je parlais tout à l'heure. Et donc, du coup, on pourrait considérablement libérer l'activité économique. Et donc ça ferait beaucoup plus de travail.
Merci Nicolas Bouzou. L'éternel sursaut, une histoire confiante de la France. Vous avez aimé le discours de Nicolas. Bah, il suffit.
Mais on va y arriver, hein. Je venais chez vous il y a 15 ans. Si on se revoit dans 15 ans, vous verrez que j'ai eu raison.
Bah, on n'aura pas changé dans 15 ans. Vous serez là pour nous le dire. C'est aux éditions XO. Merci Nicolas.
Merci
et là,
à
tout
vous.
De suite pour, avec les GG pour aller du côté de la banlieue lyonnaise à Saint-Genis-Laval avec cette gamine qui a été agressée par d'autres gamines. On est chez les ados encore. À coup de pied dans la tête, ça s'est passé. Il est 11h, on va rester avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les Gigi et les grandes gueules avec Bruno Poncé, avec Zora Bitant, avec Emmanuel Devilliers. On est ensemble jusqu'à midi. N'oubliez pas les podcasts si vous avez raté les GG, bien évidemment. C'est sur l'appli RMC avec Zora, Bruno, Emmanuel Devilliers. Et avec vous au 32-16, on va regarder ce qui s'est passé du côté de Saint-Genis-Laval dans la banlieue lyonnaise. La vidéo est terrible, vraiment hallucinante. Elle est malheureusement disponible sur les réseaux sociaux et c'est devenu une habitude dégueulasse. C'est-à-dire que quand aujourd'hui il y a quelqu'un qui se fait casser la figure, bien évidemment c'est filmé et c'est mis sur les réseaux sociaux. Et là c'est ce qui s'est passé entre ces jeunes filles. C'est une, peu après 17h, à la sortie du collège, qui s'est fait tabasser, rouée de coups par deux autres jeunes filles.
Oui, on est tout à côté de l'établissement scolaire, hein. On n'est pas dans un endroit caché. On est à 10, il est 17h, c'est peu avant 17h, donc on est vraiment en pleine journée. Et donc cette jeune fille est tabassée. Alors c'est vrai que les images sont extrêmement violentes et à peine soutenables à regarder. C'est que des filles. Donc en fait, la violence des filles, c'est alors les spécialistes le disent. Hein, maintenant, ça ne concerne pas que les ados garçons. Hein, les adolescentes aussi s'y mettent et la violence, elle est aussi chez les filles contre une autre fille. On filme et on diffuse tout de suite sur les réseaux sociaux. La vidéo était très très vite disponible sur les réseaux sociaux. Bon, du côté des autorités, on n'a pas grand-chose à dire à part qu'une plainte a été déposée. Le maire dit qu'il va mettre des patrouilles de police municipale autour de l'établissement scolaire. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé les auteurs de ce fait, mais c'est une fois de plus illustration de cette ultra-violence chez certains adolescents.
Alors, tu as raison, on ne les a pas interpellées, mais elles sont connues, puisque elles sont connues de la gendarmerie pour comportement violent répété, trouble à l'ordre public. Qu'est-ce que vous en dites,
D'abord, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de vidéo. Il y a eu même des lynchages où des jeunes sont morts. On est un peu impuissant face à tous ces phénomènes. Et c'est toujours la question de la punition. En fait, quand la punition ne tombe jamais, puisque c'est pas le premier fait de ce genre aussi grave qu'on voit circuler, hein. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. De manière récurrente, on voit passer des vidéos de jeunes qui lynchent d'autres jeunes
là, et
d'autres,
filles, hein.
Et d'autres qui filment. Mais le phénomène des filles violentes, vous prenez la littérature sociologique et politique et économique depuis longtemps, ça fait un moment qu'on en parle. Et le problème, c'est la sanction. C'est qu'à partir du moment où il y a l'impunité permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rappel à l'ordre, il n'y a pas d'autorité, etc., pourquoi voulez-vous que les jeunes s'empêchent, ou en tout cas aient un cadre?
Si elles sont connues de la gendarmerie, ça veut dire qu'elles ont déjà quand même.
Les centres éducatifs fermés.
Visiblement, ça ne les a pas perturbés.
Non, mais écoutez, les centres éducatifs fermés sont. Il n'y en a plus. Lorsque un juge, on lui présente un mineur pour des faits parfois graves ou parfois même pour des faits mineurs qui commencent, et ben comme le juge n'a pas de mesure à la fois de sanctions et de placement digne de ce nom qui permettrait à des jeunes à la fois d'être sanctionnés mais à la fois de prévenir, comme il a rien, ben il les remet dans la nature. La police fait son travail, elle le fait bien. Ça atterrit chez les juges. Eh ben, les juges, ils se retournent. Moi, j'ai un ami qui était juge qui me disait, mais Zora, quand j'ai un jeune de 13 ans qui commet un délit, moi, j'ai envie de le punir. Mais sauf que la structure qui est censée appliquer la punition, elle n'existe pas. Donc moi, je suis que juge. Je prononce la sanction et elle ne tombe pas. Donc à partir du moment où la sanction ne tombe pas, eh ben, c'est l'impunité totale. C'est-à-dire qu'un gosse qui dit, je peux massacrer un autre gosse. De toute façon, je suis mineur, il va rien m'arriver. Donc on est en train de se prendre la tête sur un truc totalement simple, basique. Tout enfant qui commet un délit est puni, point, et que la punition, elle est en graduation.
Ah là, c'est pas un délit, là, on est plus proche du crime.
Non, mais
en fait,
premier délit, quand tu punis le premier délit, non, évidemment, là, c'est déjà la première chose. Non, après,
les gamines, c'est des criminels, en
plus. Bien sûr, bien sûr.
Quand tu mets des coups de pied, comment tu vois la vidéo.
Mais bien sûr,
c'est ça qui est
terrible. Mais elle est insupportable, la vidéo, on peut même pas la regarder, tellement c'est dur.
Je ne comprends pas, moi, que. Enfin, déjà que ce soit filmé, c'est bien, limite, pour une fois, comme ça, au moins, t'as des preuves, t'as tout, et puis tu vas les emmener au tribunal, et puis surtout, va falloir les déradicaliser de leur violence, en fait. Parce que tu peux les mettre en zonzon si tu veux, mais si tu les mets en zonzon, tu vas faire un terreau fertile pour faire pire. Donc en fait, tu les mets en prison, il va falloir t'en occuper vraiment et pas les abandonner au système pénitentiaire qui n'a pas de moyens. Il faut vraiment les prendre et les déradicaliser. Parce que quand elles sortiront au bout de 2, 3 ans ou 4 ans, si elles sont condamnées,
il n'y a pas cette réponse, donné, Bruno, il n'y a pas de structure, c'est ce que disent les juges.
Tu mets des monstres en. Voilà, c'est des monstres. Enfin,
ben oui.
Alors là, ce qui est dans cette affaire. Ce qui est à noter, ou notable comme vous voulez, c'est que c'est la famille de la jeune fille tabassée qui a donné la vidéo,
oui, oui.
Qui a signalé la vidéo et qui a dit à Lyon Mag, sur nos confrères de Lyon Mag, on salue qui l'ont publié, dit il faut que vous la montriez, vous devez la montrer pour qu'on voit la violence, qu'on voit que s'ils avaient pu la tuer, ils l'auraient fait de manière aussi. Il y a une prise de conscience, quoi, Emmanuel De Villiers.
Ouais, c'est, je rejoins tout ce qui vient d'être dit avec beaucoup de clarté, mais en fait, on comprend pas pourquoi les jeunes fautives sont pas arrêtées. Arrêté, mais par la peau du cul, pas avec des de la kinothérapie, etc. Parce que comme l'a dit Bruno, c'est impardonnable. Et en plus, je rejoins le propos de Zora, c'est au premier acte qu'il faut être draconien.
Exactement.
Mais moi, je suis quand même beaucoup plus optimiste pour le coup que Bruno, parce que si il y avait des sanctions exemplaires, vraiment spectaculaires, communiquées, ces jeunes-là, ils sont pas plus bêtes que la moyenne. Ils n'agiraient pas, ou beaucoup moins, beaucoup plus marginalement.
Ça calme, c'est sûr.
Parce qu'il y a pas d'exemple.
Oui.
Voilà, ça a commencé, je suis désolé, par la fin de la peine de mort, où on a expliqué qu'on allait régler tous les problèmes de justice sans faire de mal à personne.
Non, là, c'est un autre débat, là.
Ben oui, ben si.
Non.
D'ailleurs, les Français sont majoritairement.
Je pense que la faiseuse de veuves n'a rien à voir là-dedans.
On vit au mar de sang. C'est les mar de sang. Il est nostalgique des mar de sang, l'ami De Villiers. Tu vois, depuis tout à l'heure, il
attend. Et à l'époque, ça n'empêchait pas les crimes non plus.
Néanmoins, il y a un sentiment d'impunité qui fait que ces jeunes filles continuent à violenter d'autres camarades, alors qu'on les connaît, que la gendarmerie les connaît.
C'est parfois futile en plus.
Bien sûr.
Comment se fait-il que quelque chose de simple, que n'importe quel parent applique lui-même auprès de ses enfants et qui dit j'éduque mes enfants parce que au premier acte qui est pas normal je punis et ça marche, voilà. Et d'ailleurs après on retrouve des adultes éduqués. La base qui est appliquée dans nos familles avec nos enfants, elle est simple, donc je comprends pas pourquoi
comme dans l'autre cas de Sanary, mis en cause immédiatement, tout ça ça ferait un rétablissement du corps social.
Emmanuel, ce qui est intéressant d'expliquer, c'est que tout le monde essaye de nous complexifier quelque chose de très simple. Dans ta propre famille, quand tes enfants déconnent, tu mets l'eau là.
C'est d'accord, pas dans leur famille.
D'accord. Non, mais ça veut dire que dans la société, l'État, quand tu déconnes, il met l'eau là. Et non, en fait, tout le monde t'explique que non, pour mettre l'eau là, alors tu comprends. Il faut que je fasse la liste d'abord de d'où vient l'enfant, que s'est-il passé, où il a vécu à 3 ans.
Une fois que tu as parlé de la réponse judiciaire et pénale, tu as aussi un problème de conscience et d'intelligence. À quel moment tu mets des coups de pied en tête de quelqu'un et tu ne sais pas que derrière tu peux tuer ou rendre lourdement handicapé?
Moi, parce qu'elles savent qu'elles peuvent tuer.
Ouais, moi, je sais pas, il y a une image d'un film qui m'a marqué toute ma vie, c'est American History X, où le mec, il met la tête d'un noir et il casse la mâchoire, mais il fait plus qu'il casse la mâchoire. Et en fait,
ça s'en rapproche.
Oui, exactement. T'es dans le même cas, t'es dans le même type. Et moi, je me dis, depuis que j'avais vu cette image-là, bon, tu le savais d'avant, parce qu'on est quand même pas des
troupes.
Mais je trouve que ces gamins manquent de conscience. Et puis, il y a un problème psychologique de penser que taper dans la tête, ça va pas faire du mal à quelqu'un, ne pas tuer. Je trouve que la banalisation de la mort et de la violence est une catastrophe dans notre société. Hein. Et je sais pas si ça vient des réseaux, des images qu'on est abreuvés toute la journée, mais je trouve qu'aujourd'hui, ces enfants, pour faire ce genre. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste des enfants de 15 piges. Comment tu peux arriver à faire
ça? Pourquoi ils te tapent dans la tête?
Pour tuer, pour faire mal. Oui,
mais tu sais, Bruno, souvent les mineurs sont beaucoup plus violents que les adultes, parce que quand t'es adulte, il y a une prise de conscience de ce que tu fais.
Ouais, à 15 ans quand même.
Mais à 15 ans, dans les policiers vous le disent, hein, ils ont souvent plus peur de ces jeunes de 15 ans que des jeunes de 20 ans, parce que ces jeunes de 15 ans sont incontrôlables. Il y a l'effet de groupe.
Ouais,
de groupe.
Donc c'est des sauvages qu'il faut punir.
Bah oui, et c'est pas la première fois, mais qu'on commence. Ça, souvenez-vous ce qui s'était passé sur la dalle de Beaugrenelle, régulièrement, malheureusement.
Mais c'est ton sauvagement, mais si après on casse un avant-bras à ces jeunes, ça fait c'est la bavure, il y a des bavures. Maintenant il faut régler les problèmes.
Oui, mais tu n'as
pas
violence
minimisé
par
la violence des filles aussi.
Mais complètement,
qu'on n'a pas minimisé aujourd'hui ce quoi.
Non, c'est pas qu'on a minimisé, c'est qu'en fait, dans notre société, on marche par vagues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va parler de la violence des filles. Et d'un seul coup, ça va disparaître. Ouais. Mais la violence des filles, elle est récurrente. Et depuis un moment, on le voit. Moi, je me souviendrai toujours, en banlieue, j'étais dans un bus. Je suis montée dans le bus en banlieue, comme tout le monde. Et il y avait un attroupement de filles au fond. Elles étaient une dizaine. Et elles ont mis un bazar, mais sans nom, quoi. C'était insupportable. Il y a des gros mots, etc. Je suis allée les voir parce que j'ai l'habitude de parler avec les jeunes. Donc elles ont déjà été surprises par le fait que quelqu'un vienne les voir. J'avais 10 ans de moins, mais peu importe. elles étaient tellement gênées que quelqu'un dise quelque chose que ça les a surprises et ça les a calmées. Mais en fait, même l'adulte dans la rue et partout, il a peur. Il a peur des adultes. Moi, j'étais en bas d'une tour pendant des années, toute seule, à 30 ans, jusqu'à 40 ans, dans une cité. J'avais un accueil emploi dans un local. J'avais une règle en fer, je me souviens. Et je faisais de l'insertion professionnelle dans la cité, au cœur de la cité. J'avais pas de sécurité, ni rien. Les jeunes descendaient pour venir consulter les offres, pour avoir des rendez-vous, etc. Mais en fait, j'avais une autorité. Pour eux, je représentais une autorité. On va voir Zora, on travaille son CV, on cherche un emploi, etc. Et quand ça allait pas, quand ils descendaient mal habillés, quand ils étaient en casquette, quand il y en a qui descendaient en claquettes parce que c'était juste en bas, moi je leur disais, mais tu te crois où là? Tu remontes, tu t'habilles, tu te laves, tu reviens présentable et après je te reçois. Et il y avait aucun problème. Tout le monde respectait ça. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien. C'est-à-dire que l'adulte n'a plus de valeur.
Parce que tous ces voyous ont le sentiment d'impunité.
On va continuer d'en discuter avec nous dans un instant avec Junior. Il est du côté de Rennes. Les parents, dit-il aujourd'hui, doivent se défendre. Il a l'exemple de son fils aussi dont il veut nous parler. Et vous venez en discuter avec nous dans les GG, dans les Grandes Gueules pour conclure ce qui s'est passé à Saint-Genis-Laval dans la banlieue lyonnaise. Bagarre de filles, une fille à terre. On est avec des lycéennes, hein. Coup de pied dans la tête. Ce sont les parents qui ont demandé à ce que Lyon Mag, nos confrères, montrent la vidéo pour qu'on prenne conscience aujourd'hui de cette violence.
Ultra-violence,
d'ultra-violence et de ce sentiment d'impunité aujourd'hui des agresseurs. Vous venez commenter ça avec nous au 32-16, il est midi moins 25.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Venez discuter avec les GG, avec les Grandes Gueules. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et là, on s'intéresse encore à ce phénomène-là, cette violence que l'on sent dans la société. Et puis là, c'est ce qui s'est passé. C'était la semaine dernière. Hein. C'était vendredi 30 janvier, il y a une semaine pile, avec cette jeune fille qui a été agressée à la sortie du collège. Je dis bien le collège, hein, ça veut dire qu'on est chez les 12-15 ans, le collège. Ça s'est passé à Saint-Genis-Laval, dans la banlieue lyonnaise. C'est à la sortie du collège Jean Giono. Une jeune fille s'est fait agresser par deux filles, connue elle-même des services de gendarmerie pour des faits de violence répétés, des troubles à l'ordre public. Donc on sait précisément à qui on a affaire. Elles attendent la jeune fille à la sortie du collège. Elles la tabassent, elles la mettent à terre. Ensuite, c'est les coups de pied dans la tête, ce qui a valu d'ailleurs une hospitalisation de la victime. Junior, bonjour.
Salut l'équipe, comment vous allez?
Ça va, Junior. Junior, notre ami de Rennes, Pizzaiolo. Que pensez-vous de ce qui s'est passé? Alors, dites-moi.
Alors, je pense déjà que ça commence beaucoup plus tôt que ça. Moi, c'est arrivé à mon fils, il a été au centre de loisirs, il avait 6 ans. Et il s'était fait agresser par 4 gamins qui avaient entre 7 et 11 ans. Et même délire, hein, est-ce que tu veux jouer au jeu du diable? Bon, puis je connaissais pas. Boum, on le met à terre, on le rue de coups de pied partout. Je suis appelé par le centre de loisirs pour aller récupérer mon fils qui était un petit peu amoché. Et là, j'ai posé une gueulante parce que il y avait déjà eu des petits accrochages avant. Donc là, j'ai dit, c'est bon, on va arrêter les bêtises, hein. Les enfants, vous les tenez pas, donc moi, je vais apprendre à mon fils à se défendre. Et s'il se défend et qu'il fait mal à l'adversaire, ça va pas venir se plaindre, surtout pas à moi. Et par contre, moi, je vais rencontrer les parents des victimes, parce que j'aimerais bien connaître l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants pour qu'à 7 ans, on ait l'imagination de mettre un autre gamin à terre et de le tabasser.
Ah oui, et alors, vous les avez rencontrés, les parents, ou pas?
Alors, je les ai pas rencontrés directement, parce qu'on m'a pas laissé le droit, par contre. Enfin, on m'a pas laissé le droit. On a donné mon numéro de téléphone personnel aux parents, sans me demander quoi que ce soit de permission. Donc déjà, j'étais un petit peu... D'où on donne mon numéro comme ça, c'est pas très normal. Et c'est plutôt ma femme qui a discuté, parce que moi, là, je pense que je me serais un petit peu plus énervé. J'ai tendance à perdre mes... Enfin, quand il s'agit de mes gamins, j'ai tendance à péter un peu les plombs. Donc on leur a bien fait comprendre que la prochaine fois, nous on viendrait voir chez eux directement et que ce sera papa qui s'expliquera avec le papa.
Mais alors du coup aujourd'hui, votre fils, il se défend alors systématiquement?
Alors non, parce que le mot a tourné dans l'école. Mon fils a dit, mon papa il m'a donné l'autorisation de me défendre et il m'a appris à me défendre. Et si je me défends, attention, je vais vous faire mal. Et depuis ce jour, bizarrement, plus personne ne l'embête. Donc voilà, moi je dis que c'est aux parents. Quand il y a le moindre signe de problème comme ça, qu'ils interviennent directement. Ils vont voir les parents en face. Ils y passent même pas par l'école, parce que l'école, elle a trop de choses à faire. Elle est débordée. Elle est
souvent, elle est passive. Souvent.
Ouais.
Vous avez tout à fait raison, là.
Oui, l'animatrice, mais... elle ne pouvait rien faire, donc ça ne sert à rien. Vaut mieux que ce soit les parents qui se déplacent eux-mêmes et qui règlent les problèmes eux-mêmes. Et
le problème, c'est que parfois, il y a des parents qui ne sont pas impliqués comme vous. Vous êtes très impliqué, junior, dans l'éducation de vos enfants.
Et si on tombe en face sur des parents qui ne veulent rien savoir, c'est compliqué.
Si on fait des enfants, ça implique.
Je suis 100% d'accord avec vous, mais c'est ça le problème. Et puis, il y a quand même un problème avec la justice, parce que vous n'en avez pas parlé, mais on continue à juger là, ces filles ultra-violentes comme des enfants, avec un juge pour les enfants, et avec une grille de lecture qui est toujours la même, à savoir
la
première fois, pas de sanctions, vous comprenez, des mesures éducatives, etc. Peut-être que certains jeunes doivent être jugés comme des adultes, ceux qui sont ultra-violents, ils ont basculé dans autre chose. Et on a encore des lois qui divisent par deux les peines. Hein, quand vous êtes mineur, la peine est divisée par deux. Bah non. Et pour le jeune de 14 ans, non. Alors, celui qui a tué, qui a voulu tuer sa prof. Et pour ces filles, il faut pas les juger comme des enfants.
Ouais, mais regarde le désespoir des Français.
Je suis d'accord, c'est l'éducation.
Mais c'est trop tard, l'éducation, pardon. Quand des filles sont capables de quasiment tuer leur copine, c'est...
Elles ont forcément commencé plus tôt.
Oui, bien sûr. Il faut agir.
L'histoire est passée à la télé hier aux infos, il y avait mon fils qui était là. J'ai demandé à mon fils, Noah, qu'est-ce qui se passerait, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il se passerait si tu faisais ça en rentrant à la maison ?
Il me dit, alors,
tu m'attraperais et tu me mettrais une correction comme jamais j'ai pris dans ma vie. J'ai tout à fait raison. Mon fils sait que il ne doit pas dépasser les bornes parce que sinon il y a papa derrière qui va s'en mêler. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'engueuler nos enfants.
Mais alors attendez, Junior, je voudrais que vous restiez avec nous pour écouter le cas de Damien. Damien qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Damien.
Bonjour à tout le monde.
Parce que vous êtes confronté à votre fille de 14 ans et vous ne savez plus quoi faire aujourd'hui parce qu'elle fait bêtise sur bêtise, quoi, c'est ça?
C'est ça. Moi, déjà, ça a commencé, on va dire, très tôt, à 12-13 ans. Et, comment dire, la première bêtise, c'est pas une bêtise. C'est qu'en fait, moi, elle a fait une petite bêtise. J'ai voulu lui mettre une petite correction, comme moi, j'ai été élevé comme ça, c'est-à-dire une fessée. Je ne l'ai pas non plus. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Le lendemain, elle est allée à l'école. Elle a dit que je l'ai frappée. Donc, du jour au lendemain, elle a été placée au foyer. Et là, ça a été la dégringolade. Bêtise sur bêtise, et la dernière en date, je vous dis, elle est pas mal, parce que j'en ai pris une dame dans la rue pour un téléphone portable. Cette dame, ça se voyait pas, elle était un peu handicapée. Et ben, elle est passée le lendemain devant un juge. Ben, le juge, non, mais c'est pas grave, on va la placer, on va faire quelque chose. Je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Si elle a agressé quelqu'un, s'il n'y avait pas des passants, cette dame, qu'est-ce qui serait arrivé?
Mais on entend, vous vous rendez compte, on entend le cri au secours de ce papa. Alors, on confie nos enfants dans des institutions qui sont l'école. Et on décide que l'école est tellement passive qu'il faut qu'on règle ça entre parents. Ensuite, lorsque les parents s'investissent dans la vie de leurs enfants et qu'ils corrigent les enfants parce qu'ils considèrent qu'ils ont dépassé les bornes, l'État encore place cet enfant qui se retrouve dans un univers qui non seulement fait pas une désescalade de sa délinquance, mais qui l'amplifie. C'est quand même, on est chez les dingues. On est vraiment chez les dingues. Ce papa, il est investi dans la vie de son enfant. On fout la gamine en foyer. Elle commet un acte incroyable, c'est-à-dire de taper ou je ne sais quoi, une personne âgée handicapée. Et la juge décide qu'il y a des circonstances atténuantes. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la faillite de l'État et du désarroi et du désespoir de ses parents?
Le pire, madame, c'est que moi, je suis allé voir une psychologue de ce foyer-là. Et j'ai expliqué, j'ai dit, mais moi, voilà, elle a fait ça, elle est partie de la maison, parce qu'elle sait qu'à la maison, il y a des règles, elle aurait jamais fait ça. Et elle me dit, mais monsieur, c'est pas comme ça, il faut pas la taper. J'ai dit, mais je parle pas de massacrer un enfant. J'ai dit, mais c'est une correction, moi, j'ai toujours été comme ça. Quand j'étais jeune, j'aurais fait une connerie comme ça. Mais mon père, il m'aurait pas fracassé, mais je veux dire, il m'aurait puni, il m'aurait foutu une bonne, et j'aurais compris la leçon. Là,
Damien, vous savez, tous les auditeurs qui nous écoutent, que maintenant la justice interdit de mettre une fessée.
Mais oui, mais c'est ça,
on en est là en France.
Non, mais ça va plus loin, ce qu'il dit. C'est même pire que ça. On a confié sa fille à un foyer
Damien,
où la délinquance n'a pas baissé. Mais vous rendez compte un peu de quoi on parle?
Allez-y, Damien.
Vous savez ce que c'est le pire? C'est que moi, elle part, elle fait sa vie, elle a 14 ans, elle part du foyer, elle fugue, elle revient 3 jours après, 4 jours après. Bon, ils s'en foutent. Et le pire, c'est que quand je vais voir l'éducateur, il me dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais le pire, c'est pas ça, c'est que c'est moi, là, la semaine dernière, il y a eu un problème, c'est dans la région de Nîmes. Eh ben, il a fallu que j'aille, moi, dans le quartier, parce que les flics, l'éducateur ont dit, on sait aussi, on connaît l'adresse, on connaît le nom de la personne et tout, un majeur, et en plus, qui vend des stupéfiants, en gros, oui, c'est vrai. Mais ils y vont pas. C'est moi, j'ai dû y aller. Chercher ma fille là-bas dans ce Bronx. Et, ah, mais il y a des fois, comme on dit, les parents, ils lâchent prise. Mais c'est pas qu'on lâche prise, c'est qu'on peut, on fait quoi?
Ben vous êtes confronté à un État qui vous a confisqué la garde de votre fille parce qu'il vous trouvait entre guillemets violent et qui lui n'assure pas cette éducation qu'il s'est autorisé à avoir sur votre fille. Mais ça c'est la folie. Quoi. Ça c'est vraiment faut l'entendre pour le croire. C'est-à-dire que même l'État passif à l'école,
Damien, elle est suivie votre fille ou pas aujourd'hui?
Elle est suivie par un juge des enfants, un correctionnel parce que il y a que de la correction. Mais le pire, c'est que pour cette agression-là, qui est quand même une agression, mais très très grave, parce que s'il n'y avait pas des passants, la dame était en insuffisance respiratoire quand les pompiers sont arrivés. Ça veut dire qu'elle aurait pu mourir, cette dame. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le juge? Juste pour un téléphone portable. 2-3 jours après, il dit oui, on va la convoquer. Je suis allé 3 mois après, oui, on va la reconvoquer dans 6 mois. Mais elle a le temps de tuer encore quelqu'un.
Voilà.
Oui, donc là, c'est un père, Damien, incroyable, qui attend l'aide de la justice,
Il raconte la faillite de l'État dans l'éducation.
Merci à Junior, merci à Damien, merci à vous de vos témoignages tous les deux. Merci Junior, merci Damien, et bon courage à vous. C'est tout ce qu'on peut dire, malheureusement, de manière un peu cliché et un peu banale, mais vous avez tout notre soutien. Merci à tous d'avoir suivi les GG aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, nous serons avec Joël Dagosséry, la coach de vie, Jérôme Martin, médecin généraliste. On parlera du vrai coût de la santé. On en parlera demain avec Jérôme, mais il y avait vos appels à prendre en priorité. Charles Consigny sera avec nous aussi et nous serons avec le député Les Républicains des Hauts-de-Seine, Philippe Juvin, pour parler un peu de la situation politique et de ce qui se passe à droite.
Il y a la pub qui revient en ce moment. Si Juvin mine, Juvin bien.
Bah, Juvin bien, c'est Juvamine.
On la lui sortira. Je pense que ce sera une première. Bonjour Estelle Denis.
Bonjour Alain, bonjour les GG. Beaucoup de débats dans Estelle Midi aujourd'hui. On va parler de ce chiffre. 61% des Français s'estiment mal payés. D'accord, pas d'accord. Vous nous appelez bien sûr pour réagir au 32-16. C'est une affaire d'État qui se profile.
Ah bon?
Sachez que les tigres, le tigre Frosties, le lapin Nesquik ou encore les dinosaures, Dinosaurus, vont peut-être disparaître.
Des paquets.
Pourquoi? Vous savez pourquoi? Eh ben parce que ça incite nos enfants à manger trop sucré. Donc, on va se poser la question. Est-ce qu'il faut faire disparaître le tigre Frosties et le lapin Nesquik de nos paquets?
Quelque chose de moins ludique, de moins attractif. Des paquets noirs et blancs, bien sûr,
avec marqué manger-tu. Comme ça, on en parlera à midi et demi. On parlera également des soirées étudiantes open bar. Vous savez, vous payez 20 euros et l'alcool est gratuit durant toute la soirée. Est-ce qu'il faut supprimer ces soirées où l'alcool coule à flot, où il y a aussi beaucoup d'agressions sexuelles, notamment? Il y a un étudiant qui est mort à Nancy après l'une de ces soirées. On en parlera à 13h30. Et puis, chômage des cadres, boom de l'IA. Seriez-vous prêt à tout plaquer pour un métier manuel? Il y a un boom des reconversions. Ah d'accord, elle faisait quoi au départ, Alain?
Elle était dans la stratégie communication. Elle s'est dit, ça sert à rien. L'IA va remplacer un paquet de gens dans mon service. Elle est partie et elle est en formation de réflexologie.
Ah mais c'est génial, oui. Et elle est hyper heureuse évidemment.
Bah ça, pour le moment, elle étudie, on verra après.
Ouais. Il y a plein de cadres voilà qui font le même cheminement que votre fille Alain et qui justement se tournent vers des
métiers. Chouette, on va avoir plus de plombiers, plus d'électriciens,
c'est génial en fait. Et revalorisons ces métiers.
Tu préfères.
Vous savez que c'est bientôt la Saint-Valentin. Tu préfères tromper ou être trompé?
Déjà,
Bruno,
je vais tromper. Qui veut être cocu?
Oh, mais c'est quand même pas très agréable. Enfin, je veux dire, de tromper non plus.
Bah, si.
Est-ce que vous avez déjà fait les deux? Bruno.
J'ai déjà été les deux, oui, c'est vrai.
Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Oui. C'est la banale histoire de la vie, ma chère Estelle.
Non, moi jamais.
Ah, mais ouais. Tiens, même bien évidemment. Elle est 32-16.
Allez, vaut mieux. Attends, réfléchis.